question de l'essor de l'islam actuellement. Et je pense, comme plusieurs le pensent aussi aujourd'hui, que c'est une réaction contre l'échec du discours laïcisant des classes moyennes,
non.
plus que
non.
l'élargissement
non. Non.
de ces classes
non.
même.
Non, 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 parce que on ne peut pas parler de l'échec du discours laïcisant dans la mesure où ce discours n'a pas eu la possibilité de fonctionner. Il n'a jamais eu la possibilité de fonctionner. Encore une fois, si nous considérons le fonctionnement de ce discours dans les années 30, les années 40 ne comptent pas parce que c'est un contexte de guerre mondiale, mais les années 30 et les années 20, ce discours commençait seulement à se mettre en place. Les intellectuels arabes qui pouvaient tenir un discours laïcisant pouvaient se compter sur, je ne sais pas, ils étaient en nombre vraiment très limité. Et les cadres sociaux qui pouvaient accueillir ce discours, c'est-à-dire justement la population qui pouvait comprendre les références des écrits de gens comme Taha Hussein ou comme l'Aqad ou comme Mazini ou comme tous ces gens qui avaient tout de même étudié dans les universités européennes, les cadres sociaux étaient extrêmement réduits. Les gens étaient analphabètes, même en langue arabe, à plus forte raison en français ou en anglais, ils ne connaissaient pas, donc ils ne suivaient pas. Il n'y avait donc pas de cadres sociaux qui puissent assurer le succès de ce discours laïcisant. Il était vraiment réduit à un petit groupe d'intellectuels.
Oui, mais sur le plan...
Ensuite est intervenu dans les années 50, c'est la phase des guerres de libération. Là, par conséquent, il n'y avait pas de place ni pour le discours laïcisant ni pour le discours religieux. Il s'agissait de se libérer contre un occupant qui est un occupant étranger, extérieur. C'est une phase tout à fait spéciale. Et cette phase spéciale, malheureusement, a duré longtemps aussi dans les pays arabes, surtout en Proche-Orient, puisque la lutte contre Israël pratiquement continue jusqu'à nos jours. Et la lutte contre Israël, c'est aussi une mobilisation des esprits qui fausse le jeu interne des sociétés.
Mais cette lutte n'a jamais été faite sur la base d'une mobilisation islamique. Elle a été toujours faite sur la base d'une mobilisation laïcisante, arabisante.
Oui, je dirais nationaliste, oui.
Et nationaliste,
nationaliste,
mais alors dans une connotation plutôt occidentale.
Oui, non, vous savez, le mouvement nationaliste arabe, justement, il y a toutes ces références qui convergent dans le mouvement. Elles convergent d'une façon indistincte. Et dans la phase des luttes de libération, aucun arabe ne cherche à démêler s'il y a de la religion ou s'il y a du laïcisme. On y va, il y a un enthousiasme général, il y a un but extrêmement précis et on ne fait pas le détail. On n'analyse pas tellement le... C'est maintenant qu'on commence à analyser dans une situation d'indépendance. Parce que maintenant, il y a des forces internes aux sociétés qui entrent en jeu et qui essayent de se définir les unes par rapport aux autres. Alors maintenant, oui, le problème du discours laïque et le problème du discours religieux se posent. Mais ils se posent vraiment depuis quelques années. Et encore, ils se posent mal. Ils se posent là aussi dans des situations où très souvent on dit « bon, c'est pas le moment de parler de ça, il faut regarder d'abord la construction nationale, il faut regarder d'abord l'évolution des masses populaires, il faut regarder d'abord la politique économique, etc. » Il y a toujours des préalables qui rejettent au second plan le problème des idées, le problème de la pensée et le problème de l'analyse de nos instruments intellectuels de combat et d'existence historique. À mon avis, c'est toujours rejeté au second plan parce qu'il y a toujours des a priori qui sont des a priori politiques et économiques.
Mais quel discours dominait en quelque sorte ces pratiques de développement, de la construction d'un État national indépendant et tous les projets d'indépendance nationale? Sinon, c'est le discours laïcisant finalement. Les dirigeants, les classes dirigeantes arabes,
oui,
depuis au moins 52,
oui,
se sont appuyées plutôt sur un discours laïcisant que sur un discours islamique.
Bon, je vois ce que vous voulez dire maintenant, c'est une autre idée. Alors là, je ne l'appellerais pas un discours laïcisant. C'est pour ça qu'on ne se comprenait pas. Car dans mon esprit, la laïcité est une très grande valeur philosophique. La laïcité est une conquête de la pensée philosophique, la plus sérieuse. Ça n'est pas simplement une détermination par rapport au religieux. La laïcité, c'est une attitude de l'esprit devant le problème de la connaissance. C'est une attitude de l'esprit qui est toujours interrogative devant le problème de la connaissance, y compris ce que dit la religion. La religion est un problème de connaissance pour un esprit laïque. Ça n'est pas un terrain de combat ou un ennemi à éliminer. Il ne faut pas confondre l'anticléricalisme, le laïcisme qui s'est développé en France en particulier, comme une force de combat contre une force ecclésiastique qui était une force politique et qui a faussé le problème de la laïcité. La laïcité, je le répète, c'est une attitude de pensée. Et c'est une conquête difficile puisque c'est toute la circulation du savoir dans une société qui est en jeu. Comment faire circuler le savoir ? Avec un support dogmatique islamique ou chrétien ? Ou avec cette tolérance, comme nous disons, qui consiste à laisser chaque confession développer sa vision dogmatique erronée, fausse, intellectuellement fausse, sous prétexte de tolérance. La laïcité, elle intervient en toute responsabilité intellectuelle pour dire que cette manière de présenter la religion est fausse intellectuellement. Intellectuellement. Et c'est donc un combat intellectuel qui transcende absolument les conflits de classe, les conflits de groupe, les conflits de confession. Oui. Et ceci est tout à fait différent de ce que charrient les discours officiels qui font prévaloir la nécessité du développement, la nécessité de la libération, etc., dans tous les pays arabes. Car ce discours ne véhicule absolument pas la laïcité telle que je viens de la définir. Hélas, je le regrette, je le voudrais bien, car ce serait vraiment la vague de libération de fond qui nous emporterait à ce moment-là. Mais ils introduisent une matérialisation de la société, au sens de la matière, au sens des objets, au sens des gadgets, au sens de la civilisation matérielle, de consommation, à l'élaboration de laquelle nous ne pouvons même pas participer, puisque nous ne pouvons même pas produire très souvent, hélas, on commence dans certains pays, mais généralement même un carburateur de voiture, il faut l'importer. On ne sait même pas comment il est fait, et quelle est la technique qui a abouti au carburateur, qui est une technique intellectuelle. Donc là, c'est un discours qui véhicule la matérialisation au sens de des objets matériels, de l'environnement matériel de notre vie quotidienne, et non pas la laïcité. La laïcité est une grande valeur, et c'est une valeur libératrice pour nos sociétés, précisément proche-orientales en particulier. Je dis en particulier puisque il y a le problème des confessions qui produit tout ce que nous savons. Au Maghreb, nous avons une homogénéité religieuse. Dieu merci, on n'a pas ce problème-là. Mais enfin, l'homogénéité religieuse a aussi ses difficultés, hein. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri des problèmes. Mais enfin, ça, c'est autre chose.
Mais là-dessus, justement, je crois que ça pourrait être l'attitude d'un savant. Et c'est vrai, cette distinction entre laïcité et matérialisation est très importante, dans ce sens qu'un savant, pour réussir son travail et sa mission, doit être plutôt laïque. Mais est-ce que ça pourrait être un discours social? Je veux dire, tant que les classes sociales sont en lutte, tant qu'il y a des objets de lutte et des luttes...